Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Témoignages, faits de société, interviews ou récits, c'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré.
Mourad Benchelali, 42 ans, a été embrigadé dans l'idéologie djihadiste à 18 ans par son grand frère. Depuis plusieurs années, il témoigne pour combattre la radicalisation. Le Lyonnais se rend conférence sur le sujet à la Tour du Pin le 7 juin. Un reportage de Pauline Seigneur.
Je mène des actions de prévention de la radicalisation depuis une quinzaine d'années à peu près. Parce qu'à l'âge de 18 ans, j'ai été embrigadé par mon grand frère en Afghanistan. Et puis j'ai décidé de témoigner pour que d'autres jeunes ne fassent pas les mêmes erreurs que les miennes. C'est-à-dire que à 18 ans, je pars donc en Afghanistan et pour des raisons au départ qui n'étaient pas djihadistes, hein, j'étais juste j'étais attiré par la proposition que me faisait mon frère avec beaucoup de naïveté, sans comprendre la réalité de là où je mettais les pieds en fait. Mais en arrivant sur place, et ben je suis embrigadé par des combattants étrangers qui m'imposent un entraînement militaire. Et puis ensuite, je tente de fuir, de rentrer chez moi, mais il y a les attaques du 11 septembre qui font que l'Afghanistan, le pays où je suis, entre en guerre avec l'armée américaine. Et donc, ça devient difficile pour moi de fuir. Mais au bout de quelques mois, je réussis malgré tout à passer la frontière afghane. Mais je suis capturé par des villageois pakistanais qui me livrent à l'armée américaine. Et donc, c'est de cette manière-là que je suis déporté à la fameuse prison de Guantanamo, où je vais y passer 2 ans et demi de détention. Et ensuite, je vais être extradé en France et puis je vais faire de la prison en France aussi parce que la justice française va considérer que mon passage en Afghanistan est blâmable, notamment le passage dans le camp d'entraînement, et je vais faire 2 ans de prison à peu près dans la prison de Fleury-Mérogis à Paris. Et puis ensuite, je suis libéré, condamné dans un premier temps, puis relaxé par la justice française, condamné à 1 an de prison. Ensuite, le parquet fait annuler la relaxe. Je me pourvois en cassation et puis en ce moment, je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme et j'attends la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et j'ai témoigné dans les écoles, j'ai commencé à témoigner dès 2006 en fait, parce que je remarquais que des jeunes pouvaient être attirés par le djihad, tout simplement. Et donc je sentais que j'avais l'obligation, ou en tout cas le devoir, de leur raconter l'envers du décor de ce qu'est une terre de djihad en fait. Parce que eux idéalisaient beaucoup... de mon point de vue, ce que cet engagement-là. Ouais. Et puis après, j'ai continué. Et en parallèle, je me suis formé d'abord à l'insertion, c'est-à-dire que j'étais encadrant dans l'insertion. J'accompagnais des jeunes dans la réinsertion, dans le bâtiment, etc. Et puis ensuite, je suis devenu formateur, où je formais des professionnels, notamment de la pénitentiaire, sur les questions de radicalisation, etc. Et c'est comme ça que j'ai été repéré... par l'administration pénitentiaire qui m'a proposé de faire un travail de médiateur pour un de ces dispositifs qu'elle venait de créer dans ma ville à Lyon. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. C'est d'autant plus important que de sensibiliser les jeunes, parce qu'avant, il fallait simplement les sensibiliser sur la propagande, etc., leur montrant que c'était pas forcément le bon chemin. Mais là, aujourd'hui, il faut aussi les accompagner, y compris... dans la façon de décrypter les médias, par exemple, de décrypter une information, de faire la part des choses entre une bonne information et une mauvaise information. La question n'est pas simplement la question de la propagande aujourd'hui, c'est vraiment l'éducation aux médias aussi et à l'information, du rapport à l'information. Toutes les raisons qui pousseraient un jeune à se radicaliser, que ce soit des raisons sociales, religieuses ou même politiques, elles existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce que on ne parle plus de Daesh ou de la Syrie que les jeunes ne sont pas susceptibles de se laisser embrigader. Et c'est pour ça que j'ai continué ce travail de prévention d'ailleurs. Ce qu'il faut regarder, c'est si le jeune est dans une forme de rupture par rapport au reste de la société. Je pense que la base du problème, elle est ici. Est-ce que pour des raisons d'identité, pour des raisons sociales, on a des jeunes qui décident de se mettre en rupture avec les autres, ils commencent à avoir des griefs, par exemple, par rapport à la France, par rapport à leur pays d'origine, par rapport à toutes ces choses-là. Je pense que c'est ça surtout qu'il faut observer.
Ça fait donc longtemps que vous parlez radicalisation, que vous faites de la prévention, comme vous le dites, sur cette thématique-là. Au fil de toutes ces années, est-ce que il y a quelque chose que vous retenez plus qu'une autre, une rencontre ou un message à faire passer
En fait, c'est vrai que moi, depuis toutes ces années, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que le travail de sensibilisation est resté utile en fait? Est-ce que c'est pas une chose qui est passée? Est-ce que c'est un problème qui est réglé ou qui est passé derrière nous, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, d'une part, on avait comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on ait des jeunes qui soient vulnérables à la radicalisation, enfin, ça existe toujours. Il y a beaucoup de jeunes qui, de mon point de vue, peuvent se laisser embrigader pour plein de raisons. Mais à l'inverse, on a beaucoup d'institutions, de personnes qui s'étaient engagées sur la question de la prévention de la radicalisation, qui aujourd'hui se démobilisent sur cette question ou passent à autre chose, comme si c'était un problème qui était derrière nous. Et moi, personnellement, c'est une chose qui m'inquiète. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les pouvoirs publics aujourd'hui réorientent leur politique sur autre chose, comme si le problème était terminé, alors qu'en fait, de mon point de vue, rien n'est réglé. On a des personnes qui ont adhéré à l'idéologie djihadiste pour des raisons qui leur en sont personnelles, mais c'est le fruit d'un raisonnement. C'est-à-dire qu'eux ont décidé un jour d'adhérer au djihad par rapport à leur propre raisonnement. Et moi, je ne vois pas pourquoi une personne ne pourrait pas avoir le raisonnement inverse. De mon point de vue, le cerveau, en fait, fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jour une conviction et puis après changer d'avis. Il n'y a aucune raison qui font qu'on ne change pas d'avis. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui se sont radicalisés changent d'avis forcément. Mais en tout cas, c'est une chose qui est possible. D'ailleurs, la preuve, c'est que beaucoup de personnes qui sont sorties de prison, par exemple, n'ont pas récidivé, sont passées à autre chose, etc. Il y en a d'autres qui vont garder leurs idées, mais qui vont devenir moins violents. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on ne peut pas dire que l'adage qui dit djihadiste un jour, djihadiste toujours, est, de mon point de vue, pas forcément vrai.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.